Olivine Dich, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce mois d'août a été marqué par une polémique, c'est l'affaire du Burkini. La question que j'aimerais vous poser, c'est selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire qui, au final, peut paraître quasiment anecdotique?
Oui, en effet, beaucoup de gens disent que c'est quelque chose d'anecdotique, ça ne vaut pas la peine de se battre pour cela. Et en réalité, je pense que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a derrière la lutte pour ou contre le burkini une véritable stratégie idéologico-religieuse pour imposer un système culturel et politique, à savoir l'islam, de manière plus générale, avec l'objectif qu'on y arrivera tôt ou tard. Il y a un processus qui est en cours qu'on ne voit pas dans ces batailles, que ce soit sur la burqa, le burkini, les repas dans les classes, le refus de serrer la main des instituteurs, toutes ces pratiques, si vous voulez, l'une après l'autre, on ne voit pas qu'il y a là derrière une stratégie globale que l'on veut finalement imposer. Et c'est en termes de communication politique qu'il faut poser le problème. Qu'est-ce que c'est que la communication politique? Eh bien, généralement, quand vous avez un problème disputé, conflictuel, chacun a sa définition, sa conception du problème, ici du Burkini, et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a tout un processus en cours et qu'au final, une partie l'emporte sur l'autre. Et j'ai l'impression que ceux qui sont opposés au Burkini, ayant conscience de ce que ça cache, vont finir par lâcher prise, culpabilisés qu'ils sont, tétanisés par les accusations. Voilà, je crois que c'est cela qu'il faut absolument montrer et que le défaitisme dans la communication politique est peut-être ce qu'il y a de pire et en aucun cas il faut lâcher prise. Alors, j'avais effectivement écrit un article où je disais que cache le Burkini et je disais qu'en réalité il y avait un véritable djihad culturel derrière cet apparent objet dérisoire. Et quelques jours après, déjà, dans un édito d'un journal non négligeable, Suisse Romand, une éditorialiste réplique ce que ne cache pas le Burkini. Donc, vous voyez, d'une part, ça montre qu'on est lu, mais surtout, monte au front des féministes anciennes, on n'ose pas dire vieilles, 68ards sans doute en partie, et qui se moquent et ridiculisent, si vous voulez, ceux qui essayent de montrer ce qui se cache derrière le Burkini. Alors on nous dit des choses du genre, un morceau de tissu échauffe les esprits. L'interdire, vous imaginez, ce serait imaginer que il y ait carrément une volonté de voir dans le Burkini des terroristes en puissance, alors que, nous dit-on, c'est une infime population qui est adepte du terrorisme. Vous voyez, on minimise même le terrorisme à l'occasion du fait qu'on veut ridiculiser ceux qui veulent interdire le Burkini. Non, on va même parler d'amalgame entre le Burkini et bien sûr l'islamisme et le terrorisme, et on va s'en prendre à la laïcité en disant bien sûr que c'est quelque chose de très étroit, que c'est une autre religion. Donc vous avez non seulement une seule personne, mais divers médias qui s'y mettent de nouveau. Dans le journal bien connu Le Temps, également une ancienne gauchiste, enfin je ne sais pas si elle l'est toujours, qui avait été fascinée par la révolution au Portugal, qui était partie avec un étudiant qui nous reprochait de ne pas être assez à gauche, qui est même devenue ministre de l'Agriculture et qui finalement, figurez-vous, avait rendu les terres aux propriétaires. Évidemment, il y a des trajectoires historiques de toutes sortes, mais là on a un exemple. Alors, dans Le Temps, on nous dit que refuser le burkini serait une régression, que en réalité Le burkini manifeste une volonté d'intégration, d'acceptation et d'égalité dans la société contemporaine. Vous voyez, et on nous dit encore, la joie du sport triomphe de la sévérité de la religion. Et bien sûr, on se moque aussi du fait qu'on a dit que dans les piscines, il y avait, pour des raisons hygiéniques, une nécessité de ne pas accepter le burkini. Et la journaliste en question conclut en nous disant que c'est un crime culturel, vous imaginez, un crime culturel que de vouloir interdire le burkini. Nous avons bien sûr aussi une autre femme qui fait partie d'un parti dit de droite, le Parti libéral radical, en Suisse, qui se rapproche de plus en plus de la gauche, tétanisée qu'elle est. Cette personne, mais aussi le parti par la gauche qui arrive à culpabiliser la droite, selon un phénomène bien connu. Alors, comme présidente de la Commission fédérale contre le racisme, on lui pose la question et le débat sur le burkini. Elle répond, là, on dépasse les bornes. Le burkini permet aux femmes d'aller à la plage, donc de se libérer, et non l'inverse. C'est effectivement, vous voyez, cette inversion de la problématique par des responsables politiques de premier plan. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça illustre un fossé total et complet entre la base de la population et cette élite, prétendue élite médiatico-politique. Un sondage vient de montrer qu'en Suisse, 71% des sondés refusent la burqa. Ça, c'est une autre, si vous voulez, un autre aspect révélateur au passage. Mais voilà que intervient également le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui a vivement défendu le droit de porter le burkini. Alors, vous voyez, il nous dit des choses assez terribles. Il s'agit d'un monsieur jordanien, évidemment élu par personne. Au nom de quelles compétences, de quels droits fait-il la leçon à tout le monde, à tous les pays? On risque, avec ce genre de prise de position, d'avoir un jour, il y a eu les Brexiteurs, les Anglais qui ont quitté l'Union européenne, est-ce qu'on aura un jour les ONU outeurs, ceux qui voudront quitter l'ONU pour ces partialités idéologiques qui me semblent tout à fait inacceptables? Alors, ce haut commissaire de l'ONU nous dit par exemple des choses suivantes. L'égalité des genres ne peut être obtenue en réglementant les vêtements que les femmes décident de porter. Vous voyez, en même temps, il est adepte de la théorie du genre. Il ne parle pas de femmes ou d'hommes, il parle des genres. Ça donne déjà un premier aperçu de l'idéologie sous-jacente de ces personnes dites haut responsables. Ces arrêtés en France, qui interdisait le burkini, on verra si ça sera maintenu, n'améliore pas la situation sécuritaire. Ils tendent au contraire à alimenter l'intolérance religieuse et la stigmatisation des personnes. Elle favorise la polarisation entre les communautés et ne fait qu'aggraver les tensions, miner les efforts destinés à combattre et à prévenir l'extrémisme violent et ruine les phénomènes de coopération et empêche le respect mutuel et est hautement discriminatoire, ainsi de suite. Vous voyez, il y a un renversement total. C'est en fait les nationaux, la culture nationale, qui devient responsable si elle veut simplement qu'on accepte l'intégration, l'acceptation de nos valeurs, de notre culture, et qu'on ne se soumet pas inconditionnellement à d'autres cultures, d'autres pratiques complètement étrangères. C'est la logique typique, bien entendu, du multiculturalisme qui entraîne le communautarisme. Il y a bien du communautarisme dans ces pratiques, et on sait que ça amène à des situations, bien sûr, de conflit lorsque ces communautés ont des points de vue très différents. Et conflit, c'est peu dire. On a vu ce que ça donne, par exemple en Corse et ailleurs, où on a défendu ces personnes qui n'admettent rien qui est contraire à leur pratique. De plus en plus, on a dit qu'ils nous donnaient une leçon. Donc, si vous voulez, tout le monde s'y met pour tenter d'imposer ce burkini en ridiculisant, en critiquant, en dénigrant tous les autres. Je pense que nous avons là un exemple typique qu'il ne faut pas minimiser, ne pas le prendre comme une pratique singulière, mais voir là derrière cette stratégie idéologico-religieuse et une communication politique qui tient tôt ou tard à imposer ses pratiques. Le pire serait que les défenseurs de nos pratiques culturelles, qui ont toujours accepté un degré de diversité, cèdent, se fatiguent, car ceux qui veulent imposer ces pratiques ne se fatiguent jamais, ils peuvent attendre quelque temps, revenir avec une autre revendication. Donc là, je crois, voyez-vous, que le mot de djihad culturel, ce harcèlement de pratiques étrangères qu'on finit par essayer de nous faire passer comme étant une forme de libération, il ne faut en aucun cas abandonner la lutte, la communication, et continuer à imposer simplement le respect de nos cultures, de nos valeurs. Ça me semble un élément capital, et je crois que en voyant les choses en termes de communication politique, on se rend compte du processus qui est en cours. La chose évolue, se transforme, on insiste sur le sujet. Derrière la polémique, disons par exemple entre partisans et adversaires, ou entre gauche et droite, se joue quelque chose de plus essentiel, la défense, l'imposition, l'exigence d'intégration, du moins à nos valeurs principales, essentielles, fondatrices. Ne pas voir cela, c'est tôt ou tard laisser s'imposer des pratiques étrangères, c'est le cas de lire, et aussi, comme nous dirions en Suisse, des baillis étrangers, par exemple maintenant aussi ceux de l'ONU, qui veulent nous imposer des pratiques dont nous ne voulons pas. Donc il faut que la lutte et le combat continuent pour faire cesser ce harcèlement et surtout montrer qu'il y a harcèlement et pas seulement petit débat sur une chose insignifiante. Je vous remercie.
Merci pour cet éclairage, Olivier.